On se prend au jeu.
Bonjour, je m'appelle Méline Nocandi, je suis guadeloupéenne, je suis handballeuse professionnelle au Paris 92 et en équipe de France. Et bienvenue au podcast On se prend au jeu sur RCI. C'est important.
On se prend au jeu. Nicolas Ledin sur RCI.
Salut Méline.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien.
On doit t'appeler Méline ou Mémé?
Ça dépend. C'est RCI, donc ça va. Vous pouvez m'appeler Mémé. Mais Mémé pour beaucoup, beaucoup de personnes.
Les filles, tout à l'heure, m'ont dit qu'elles te connaissaient que sous le nom de Mémé, en fait. Dans le monde du hand, t'es Mémé, c'est ça?
Ben, quand je suis arrivée, et des petites, c'était soit Mémé, soit Eclipsine. Au Zion, là, c'était Eclipsine. Et dans le monde en général, en équipe de France jeune, cadette, tout ça, c'était Mémé. Du coup, tout le monde s'est habitué à m'appeler Mémé.
Eclipse In, pourquoi?
Parce que mon papa, il allait m'appeler Eclipse In quand je suis née. Je suis née le jour de l'éclipse, 98. Quand ma maman m'accouchait, elle s'est énervée. Elle a dit, tu vas pas appeler ma fille comme ça. Et du coup, c'est resté. Ils ont dit que si un jour je gagne les jeux, ils m'appelleront Eclipse In. Donc, ils se sont habitués à ça. Mais ça, c'est Curzon, là.
Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce qu'on est ici, dans ce bâtiment? Qu'est-ce que c'est ici?
Ici, on est au Palais des Sports d'Issy-les-Moulineaux. C'est le QG un peu de Paris 92. C'est là où on s'entraîne, c'est là où on joue les matchs. C'est là où je passe quasiment toute ma vie depuis un an et demi.
Justement, tu passes combien de temps par semaine ici, en général?
Entre 10 et 12 heures, parce qu'on s'entraîne une à deux fois par jour, plus les matchs. Et quand on s'entraîne pas, on monte à l'étage. À l'étage, c'est là où il y a le bureau des dirigeants. C'est là où on peut faire des soins. C'est là où il y a un peu la vie du club. Donc, c'est ma deuxième maison.
Et le reste du temps, tu fais quoi?
Le reste du temps, je suis chez moi. Du coup, à 2 minutes. J'habite à 2 minutes du palais. Et je fais quoi? Je mange. Je mange énormément. Je dors beaucoup. Mais depuis aussi un an et demi, du coup, je suis beaucoup à l'ADAPT. À l'ADAPT, c'est un centre de rééducation parce que je me suis fait les croisés. Donc, j'y passe aussi énormément de temps.
On va revenir sur ta blessure tout à l'heure. Mais pour continuer à parler de ta vie, est-ce que tu es quelqu'un de routinier? Est-ce que tu as une routine, des choses cadrées
Que pour les matchs. Il faut que de la veille, quand je vais dormir jusqu'au match, tout soit de la même manière. Après, je suis antillaise, donc très superstitieuse. Et s'il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que le match, il est déjà raté bien avant de jouer le match. Donc, faut que tout soit exactement de la même manière, que tout se fasse dans les mêmes horaires. Parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Mais à part ça, non. J'ai pas de routine. À part quand il y a des émissions à 21h ou des matchs, faut que je fasse un gros repas entier avant pour que je passe ma soirée devant la télé. Mais à part ça, non.
Donc, ça veut dire que tu cuisines entier chez toi?
Toujours, tout le temps. C'est ma priorité.
Ah ouais.
J'ai la mère des canards qui m'a dit un jour de ne pas dépenser mon argent dans des vêtements ou des sacs, mais que c'est mieux d'acheter une grosse côte de bœuf ou des trucs comme ça, parce que c'est un peu notre essence à notre corps de bien manger. Et comme moi j'ai toujours, parce que j'ai grandi aux Antilles, donc comme j'ai toujours mangé très local, si je mange pas local, je me sens pas forte. J'ai l'impression que quand je mange local, je fais 2 mètres, je pèse 150 kilos. C'est très psychologique, mais j'ai l'impression d'être très forte quand je mange que les repas de chez moi.
T'es une lève tôt ou une couche tard?
Une couche tard, mais une dormeuse de ouf.
Donc, que tu manges bien.
Ouais, que je dorme tôt ou tard, je me lèverai toujours le plus tard possible.
Tu manges quoi au petit déjeuner?
Franchement, honnêtement, vu que j'aime manger, par exemple, quand j'étais chez mes grands-parents, ils faisaient à manger comme si on était 15, alors qu'on était 4-5. Et du coup, ce repas-là, il durait pendant 2 ou 3 jours. Et moi, j'ai pris l'habitude de faire beaucoup à manger, alors que je suis soit toute seule, soit je fais à manger pour les copines, mais on n'est jamais plus de 3. Et j'ai que des grands canaris chez moi. Et du coup, quand je mange à, par exemple, 20h, faut que je mange à 20h, à 23h. Le lendemain matin, je mange le même repas jusqu'à ce que ça se termine. Donc, je peux boire du lait comme je peux manger un gros Colombo. Ça me dérange pas du tout.
Même au
petit déj. Ah ouais, mais ça, c'est mon kiff. Vraiment, vraiment.
Alors, le hand, c'est ton sport. Mais tu as parlé plusieurs fois dans des interviews de rechercher l'équilibre de vie. Mmh. On sent que c'est quelque chose d'important pour toi, même dans cette dimension de garder des choses antillaises dans ta vie. Qu'est-ce qui fait ton équilibre, justement?
Ben, mes proches, parce que j'étais à Metz avant pendant 7 ans. J'ai eu énormément de chance d'arriver avec les sœurs Canor. Mmh. Tu vois, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas perdu ni mon accent ni mes habitudes, parce que on faisait à manger, je faisais à manger pour elles, donc on faisait forcément à manger entière. Mais j'étais tellement concentrée sur mon objectif de gagner les jeux que j'oubliais tout ce qu'il y avait à côté, et j'étais vraiment handball matin, midi et soir. Sauf que quand tu fais ça pendant 7 ans, ben t'as le contre-coup du truc et tu te dis purée, mais j'ai quand même une famille, j'ai quand même des amis, tu vois. Et je me suis rendu compte que pendant les 7 ans, dès que j'avais un problème ou une contre-performance, ou même on gagnait mais il fallait passer à autre chose, ben je mettais complètement mes parents de côté. Par exemple, ils m'envoyaient des messages, je disais oui mais j'ai pas le temps, faut que j'enchaîne et tout. Et du coup c'était vraiment 90% handball et 10% le reste. Donc ça, tu peux pas faire ça toute ta vie, parce que c'est pas possible. Et du coup maintenant, ben c'est peut-être rien pour les gens, mais juste le fait d'avoir mes cousins ou mes potes venir au match, ou après les matchs je les vois, ou on peut discuter d'autres choses, ou j'ai fait un entraînement catastrophique, je rentre chez moi, je sais que je vais voir mes proches, ça change ta vie. J'ai dû acheter un chien à Metz pour essayer de switcher, parce que par exemple une défaite ou un entraînement, alors que c'est qu'un entraînement, hein, mais un entraînement qui se passait mal, j'y pensais pas dans au moins 4 semaines, tu vois. Donc ça bouffait un peu, mais c'était mon choix aussi, parce que je voulais vraiment être gagner les jeux. Et pour gagner les jeux, t'es obligé de, en tout cas la première fois, t'es obligé de, c'était ma mentalité avant, t'es obligé d'être un peu concentré sur toi et pas trop calculer le monde.
On va reparler des jeux tout à l'heure, mais t'as des passions en dehors du hand?
Ben cuisiner,
ouais,
énormément. Mon papa, il est cuisinier, donc je pense que si j'étais pas handballeuse, je me serais penchée vers sa catégorie, là. J'ai appris à dessiner. Maintenant, je peins des vêtements. Et là, je m'amuse à faire ça. Hier soir, c'est pour ça que j'étais dormi tard, d'ailleurs. J'aime beaucoup voyager. Mais tu vois, ça, c'est depuis que j'ai un peu cherché mon équilibre. Avant, je rentrais juste en Guadeloupe parce que fallait voir la famille et je revenais. Maintenant, je m'ouvre vraiment au monde entier, entre guillemets, et c'est plutôt ça.
Tu es né à Saint-Claude en février 98. Mm-hmm. Est-ce que le fait d'être né sur un volcan, ça a défini un peu ton caractère?
Eh ben, tout le monde me dit ça, mais tout le monde me dit justement que je suis né le jour de l'éclipse, et la première chose que ma maman m'a fait voir, c'était l'éclipse. Donc, je sais pas du tout. Après, j'ai mon éducation aussi, hein, mais je sais pas quelle étoile j'ai sur la tête, parce que tu vois, gagner les jeux, quand tu te dis à 12 ans tu vas gagner les jeux, quand tu vas les participer, c'est improbable. J'ai dit ça à mes 12 ans, mais j'y croyais pas du tout. Tu vois, je me disais, je ferai tout et ma carrière, elle sera super longue parce que je vais jamais y arriver, entre guillemets. En tout cas, ça, la probabilité que j'y arrive, elle est immense. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. Et on m'a dit...
Ouais, parce que t'avais 23 ans quand tu les as gagnés.
Oui,
c'est arrivé très tôt dans ta carrière.
C'est arrivé très tôt. Moi, je voulais... J'avais écrit... à mes 17 ans, j'avais écrit chaque année jusqu'à 2032. Donc, de 2015 à 2032, j'avais essayé d'imaginer un peu ma carrière. Et en fait, tout s'est passé 4 ans avant. Donc, tu vois, j'avais dit en 2020, parce que les jeux, c'était en 2020, il fallait que je sois dans les papiers d'Olivier Crumbles, mais vas-y, c'est pas grave si j'y participe pas, mais au moins, il pensera à moi peut-être pour 2024 et tout. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, purée, c'est arrivé trop tôt. J'imagine ma carrière jusqu'à 2032, peut-être que je vais pas y arriver. Donc, j'avais dit à mes parents, quand je gagne les jeux, je rentre à la maison. Donc, c'est pour te dire, je leur ai pas dit, je vais rentrer à 18 ans, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance et que j'ai une étoile sur la tête.
Donc, être né sur un volcan et un jour d'éclipse,
c'est chaud.
Très bon signe. T'as grandi à Trois-Rivières.
Oui.
C'était comment l'enfance de Méline en Guadeloupe?
C'était génial. Mais si j'aurais pu rester enfant toute ma vie, à l'époque, surtout où on était, 1998 jusqu'à 2012, c'est pas 2023. Tu vois, c'est pas les mêmes générations. C'était très familial dans l'amour, que ce soit avec la famille ou les amis. J'avais tous mes cousins tout le temps. J'avais que des cousins, j'ai que 2 cousines. On faisait des cabanes tout le temps. On faisait des barbecues dans les forêts alors qu'on n'avait pas le droit. Sérieux, c'était vraiment génial. J'ai commencé le handball très très jeune.
À la JTR?
Oui, mais il y avait le plateau sportif de mon primaire. C'est là qu'on faisait, entre guillemets, les entraînements et les souhaits. Et je me rappelle ce qu'on appelle soi-disant délinquant. Donc les gens qui sont tout le temps dehors à faire n'importe quoi entre guillemets, ben ils m'ont pris sur leurs ailes et j'avais quoi, j'avais 8 ans, ils avaient 30 ans, ils me disaient fais comme si, fais comme ça. On allait jouer au basket alors que j'étais un bébé et jusqu'à maintenant quand je vais en Guadeloupe, je les vois. Malheureusement aujourd'hui, la plupart ils sont SDF et tout. Donc c'est triste mais je me rappelle encore où ils me donnent la balle, ils me disent mais fais comme ça, tu vois. Donc c'était vraiment si j'aurais pu rester enfant, je te jure, je serais restée. C'était trop bien.
T'es quelqu'un de très nature. On sent que t'aimes ça. T'aimes être dehors, t'aimes...
J'adore être dehors. Sauf quand il fait froid. Quand je suis en Guadeloupe, mes parents me voient jamais. Mais jamais. Parce que soit je suis à la rivière, soit je suis à la mer. Soit je vais faire des randonnées, soit je suis avec mes potes. Et on n'a pas besoin de grand-chose. Tu vois, les soirées, c'est pas trop mon truc. Mais on peut rester 8 heures sur une plage avec un feu et on reste là, on parle. Sans faire de conneries, hein. On reste juste là. Mon deuxième rêve, c'est d'avoir un camping-car pour ne pas avoir de maison.
La van life.
J'y crois encore. En Guadeloupe ou dans les îles à côté, là. Parce que j'aime pas être dans une maison. Je bougeais beaucoup quand j'étais petite, mais vraiment beaucoup. Il y a encore les signes sur les arbres autour de chez moi parce que j'étais tout le temps dans un arbre, tout le temps en train de faire des cabanes ou couper les arbres comme ça pour faire des trucs. Mais j'aime pas trop rester dans une maison, jamais. Je déteste ça.
Tu parlais de la découverte du hand très tôt. Mmh. Tu t'es tout de suite dit que ce serait ton sport, hein?
Alors ça, c'est chaud parce que toute ma famille a fait du handball. Chez moi, il y avait la meilleure joueuse de la Guadeloupe, c'était ma tante. Donc forcément, quand j'étais bébé, bon, on allait jouer à la mi-temps sur le terrain, tu sais, comme tous les enfants font aujourd'hui. Et quand j'étais consciente du handball et que j'ai vu que ma tati, c'était la meilleure joueuse... Je me rappelle, on faisait un repas de famille et j'ai arrêté tout le monde. Je leur ai dit, bon, c'est moi qui vais être la star de la famille parce que tati, je t'aime beaucoup. Ma tati et moi, on avait beaucoup de concours entre nous. Donc, tu vois, elle aime manger. Et quand j'allais manger et qu'elle était là, on faisait des concours pour savoir qui allait doubler ou qui allait tripler le plus, qui allait finir en premier, tu vois. Et il y a toujours eu cette concurrence entre nous.
Donc sans elle, tu serais peut-être pas championne olympique,
non,
c'est ça ?
Non, je pense pas du tout. Et c'est vraiment vrai parce que je savais que c'était elle la meilleure. C'est elle qui m'a entraînée quand j'étais à l'école de handball avec Georgette Cointre. Et j'ai toujours dit, faut que je la dépasse, faut que je sois meilleure qu'elle, faut que je sois meilleure joueuse de la Guadeloupe. Et en fait, être meilleure joueuse de la Guadeloupe, ça suffisait pas parce que ça veut dire qu'on serait égal. Donc l'objectif, du coup, je me suis dit, pour que je sois meilleur qu'elle, faut que j'aille en France, faut que je joue en équipe de France, parce que là, il y aura pas de débat. Ça sera moi la meilleure joueuse de handball dans la famille et ça s'arrêtera là. Et ça a toujours été comme ça.
Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports en parallèle du handball?
Non, mais j'ai toujours voulu faire de l'athlétisme. Et je me suis dit, si un jour j'arrête, j'ai même contacté un entraîneur en Guadeloupe. Parce que quand j'ai gagné les Jeux, je me suis dit, j'ai 23 ans, peut-être que j'ai encore la chance de faire de l'athlétisme. Mais c'est trop technique. Je cours vite, mais apparemment, c'est très technique.
Est-ce que tu étais bon élève à l'école?
J'étais calme, parce que je dormais beaucoup. Parce que ben, du coup, on s'entraînait.
Okay.
Donc, au début, mes parents m'engueulaient, ouais, tu dors à l'école. Et à la fin, ils disaient à mes profs, oui, mais elle fait du sport. Tu vois? Donc, non, j'étais plutôt calme. Bon élève, j'ai toujours eu 12 de moyenne, je sais pas pourquoi ce chiffre, il a toujours existé, mais beaucoup 12, donc ça va.
Tu faisais le suffisant en fait,
ouais.
Le minimum.
Ouais, et un jour où on m'a dit sur mon bulletin, il faut redoubler d'efforts, et quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais redoubler, et je suis rentrée en pleurant chez moi, j'ai dit, maman, je vais redoubler, alors qu'il fallait juste que je fasse un peu plus d'efforts. J'ai failli décrocher quand je suis arrivée à Metz, parce que du coup, j'étais très concentrée sur le handball, mais mon papa m'avait mis la condition que si à l'école ça suit pas, je rentre à la maison. Donc j'ai dû me concentrer aussi sur l'école.
T'as dit à plusieurs reprises que s'il n'y avait pas eu le hand, tu serais sans doute jamais partie de Guadeloupe. C'est vrai, tu serais restée en Guadeloupe
Ah oui, serais vraiment restée en Guadeloupe. Je suis tellement fière d'être guadeloupéenne, ou même pas guadeloupéenne, mais d'être antillaise. C'est ma... plus grande fierté, c'est d'être antillaise. Je pense que j'ai de la chance de faire partie de cette communauté parce qu'on a plein de choses, on a plein de cultures et c'est le fait d'être arrivé ici où je me rends compte que j'ai de la chance. Tu vois, parce que avant, quand j'avais des potes qui me disaient oui, on veut aller en Guadeloupe et tout, je leur disais mais en fait, c'est parce que moi je connaissais. Oui, mais il y a rien à faire là-bas. Alors que maintenant, Je dis, venez, venez, faut aller, faut aller. J'ai des gens aussi qui m'ont appris ma culture, donc je suis très fière d'être guadeloupéenne.
Quand il y est, c'est une bouffée d'air, réellement, tu le sens comme ça?
C'est pas une bouffée d'air, mais c'est je rentre chez moi, quoi. Tu vois, j'ai toujours dit, que ce soit mes entraîneurs ou mes coéquipiers, que moi, ici, je me sens étrangère, comme quelqu'un qui sort de la Croatie et qui vient jouer, parce que j'habite à 8000 kilomètres. Donc ma famille n'est pas là parce que je mange pas la même chose. On fête pas les fêtes pareilles. Noël ici et Noël en Guadeloupe, c'est différent. Carnaval, c'est différent. Pâques, tout. Tout, c'est différent. Même la messe, c'est différent.
Ils disent goyave et la coco.
Ouais,
en plus,
ouais. Hein. donc je me sens pas... Je me sens étrangère. Donc quand je rentre chez moi, tu vois, on me parle pas de mon accent, on me parle pas de ma couleur, on me parle pas de mes cheveux. Je me sens chez moi, quoi.
J'ai une petite question musicale. T'es plutôt Kassav et Malavoie ou Kalash et Meryl?
Les deux. Et en plus, hier soir, j'écoutais Haïti Chérie, je crois. Mmh. Moi, j'écoute de tout. Mais je suis très zouk, très rétro-zouk, très gouillade, très compas, très les trucs à l'ancienne. Mon frère et mon oncle, ils sont DJ. Donc, tu vois, j'écoute très les trucs... qu'on écoute presque plus aujourd'hui.
Okay.
Tu vois, j'ai déjà pris mon billet pour aller voir Kassav parce que ça, c'est la base. Mmh. Et j'écoute plus du Gouoka, tu vois, avant les matchs que... Bon, j'adore Kalash et Meryl, hein, et je les écoute. Mais les trucs antillais de l'époque, là, c'est mon dada.
Le Gouoka avant les matchs, parce qu'il y a une vibration, il y a quelque chose qui
se transmet. Parce que t'entends les trucs de chez toi, déjà, ça parle créole. J'ai un Gouoka, là. Sur mon tatouage.
Tatoué, sur le bras.
Ouais. Donc, je t'ai dit, je suis tellement fière d'être guadeloupéenne, d'être antillaise. Je me retrouve que dans ça.
C'est ton identité.
Ouais, voilà.
En Guadeloupe, le club qui t'a vraiment révélé, tu le disais, t'as commencé à la JTR. Il n'y avait pas de club filles, c'est ça, à l'époque?
Il n'y avait pas de filles. Il y avait un club filles, j'ai commencé, il y avait des filles, mais plus je grandissais, plus elles partaient. Du coup, je jouais avec les garçons. Et après, j'étais à la ZUP. Parce que du coup, il y avait vraiment pas de filles, mais en fait, c'est parce que j'étais en sélection et que le deal, c'était que je peux pas être en sélection et pas jouer de match. Parce que je m'entraînais avec les garçons, mais je pouvais pas jouer de match. Donc, j'étais à la ZUP en moins de 12, moins de 14. Et à mes 14 ans, j'étais à Ozeana.
Ozeana, parce que les joueuses du pôle jouaient Ozeana, ouais. C'est ça? Tu étais avec les sœurs Canor, avec Janela aussi.
Janela, ouais. Laetitia, Saibou, Tessa Patisson. Ou la plupart des filles du pôle.
C'est la génération dorée du Zayana. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette aventure, cette épopée jusqu'au titre de championne N1?
Très bon souvenir, bon, je vais être honnête, hein. C'est la première fois que j'avais bu de l'alcool, goûté de l'alcool, que j'avais fait la fête. C'était incroyable. Mais en fait, nous, c'était vraiment un projet parce que ça a duré 3 ans, je crois. Et je me rappelle, pendant les 3 ans, on gagnait des matchs et Janela et moi, on fêtait jamais parce qu'on se disait, mais oui, on a gagné, mais ça, c'est rien. Tu peux gagner un match de championnat, mais ça change rien. Et l'année où on dit que ben c'est notre dernière année et que on va partir parce qu'il faut qu'on parte, et on se dit, il faut qu'on gagne tout. Mais tu vois, là encore, c'est un souhait. Mais tu sais pas si ça va arriver. Et je me rappelle quand on a gagné les 3 titres, c'était la première fois qu'on criait pour du handball, qu'on était contente pour du handball, qu'on sautait partout.
Les 3 titres, c'est championne de Guadeloupe, championne ultramarine.
Coupe.
Ah ouais. Oui, coupe aussi. Championne ultramarine, il y en avait 4 en fait. Ouais. Et championne énorme.
Ouais, et c'était vraiment, on est parti la tête haute, on est parti en mettant un club de la Guadeloupe très très haut. Donc, on était très 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 fiers de pouvoir déjà partir comme ça. Parce que du coup, tu remercies un peu les gens qui t'ont accompagné. On a fait toute la Guadeloupe rêver, mais même les Antilles, parce que la Martinique, je me rappelle, la Guyane, la Réunion, ils nous ont supportés quand on jouait contre... C'était Celles-sur-Belle. Je me rappelle, c'était trop bien. C'était trop bien. Je t'oublie pas d'où tu sors, quoi.
Donc ça, ça t'a ouvert les portes de Metz hein, à 17 ans. Bon, clairement, c'est le meilleur centre de formation de France, on peut dire ça comme ça.
On m'a contacté, il y a 8 clubs qui m'ont contacté, dont Metz. Le seul, c'était Yacine Messaoudi, qui était entraîneur du centre de formation. Et c'est le seul qui m'avait dit, des 8, quand tu vas arriver, tu vas pleurer, tu vas pas jouer, ça va être dur. Il n'y a que des stars dans, à Metz, c'est la meilleure équipe de France et tout. Et tous les autres clubs me disaient, tu vas jouer, tu seras en D1, ça va aller, tu auras du temps de jeu et tout. Et je me suis dit, il faut que j'aille là où c'est dur parce que si j'y vais pas, je pourrais pas atteindre mon objectif. Et c'est surtout qu'en Guadeloupe, j'étais la seule demi-centre. Donc j'avais pas de concurrence, je jouais tout le temps. Il y avait rien qui pouvait me faire aller plus loin, quoi. Donc j'ai dit à ma maman, on va aller à Metz. Hein.
Pourtant, c'est pas attractif sur le papier, mais...
Non, franchement, c'est à l'époque en tout cas, parce que maintenant ça a changé, mais il y a rien à faire là-bas. Il fait super froid et j'ai eu de la chance le premier hiver, c'était pas le plus froid. Mais quand t'es là-bas, tu peux que te concentrer que sur l'handball. On était que trois. Et quand j'ai su que les jumelles venaient avec moi, j'ai dit alléluia. Et en plus, j'étais
Orlan
en famille.
Et Laura Canard,
oui, évidemment. J'étais en famille d'accueil. Donc en plus, j'étais même pas avec elles parce qu'elles sont plus grandes que moi. Elles étaient avec le centre et moi, j'étais en famille d'accueil. Je dormais au lycée, donc c'était vraiment pour que j'atteigne mon objectif, quoi. Sinon, je serais allé à Nice avec Janou. Il fait chaud là-bas. Il y a la vie là-bas.
T'en as parlé récemment. C'était un peu la génération des fricheuses. Hein, première qui arrivait vraiment à s'expatrier du pôle. Aujourd'hui, on a peut-être plus de recul sur ça, sur accompagner cette jeunesse. Est-ce que il y a des moments où tu t'es senti seule, même s'il y avait les sœurs Canard avec toi, mais...
Non, jamais. Et jusqu'à maintenant, je me suis jamais sentie seule parce que, du coup, j'ai mes amis qui m'ont toujours suivie, même s'ils n'étaient pas avec moi, ma famille. Ça, c'est indétrônable. Mais mes coachs, et que ce soit physique, kiné ou coach principal, tous les coachs que j'ai eu en Guadeloupe, ils m'ont toujours suivi. Ceux que j'ai eu ici, ils m'ont toujours suivi. Ils ont toujours demandé si ça allait. Je me suis jamais sentie seule. Mais même pour l'école, j'avais des responsables qui étaient toujours là. Il y a des moments où, par exemple, je sentais que je progressais pas dans le handball. Ou même que je régressais. Mais c'était OK, quoi. Tu vois, aujourd'hui, je me sens pas super forte. Mais je sais que c'est OK, que ça arrive dans une carrière, que ça, tu peux pas être tout le temps très, très forte ou tout le temps très faible. Il y a ça évolue. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, où je me suis sentie nulle, je me suis dit, bon, si on continue à me parler, si on continue à me donner des responsabilités, c'est que ça va aller. Et je me suis déjà dit ça, le jour où j'aurai personne dans un club, ça va me faire tout drôle parce que soit j'étais avec les jumelles, soit j'étais avec Janou. Mais j'ai jamais été seule dans un club où il y a que moi et moi, où je dois connaître les autres personnes, où je dois m'ouvrir aux autres, où je peux pas parler créole, tu vois. J'ai toujours eu quelqu'un avec moi. Ça, c'est un critère quand je signe quelque part.
Tu l'as un peu évoqué, ça parle créole au Paris 92?
Ça parle créole fort. Mais même notre prépa physique que t'as vu tout à l'heure, il parle créole. Mais ça, c'est, des fois, quand j'étais à Metz, et qu'on parlait créole ou qu'on avait toujours des remarques vous parlez créole, à tes cheveux, à tes trucs, c'est des trucs où je m'en fous, mais au final ici on me dit pas ça, quoi. J'irai jouer autre part, peut-être qu'on me le redira et tu vas changer d'attitude, t'as pas la même attitude, t'es moins à l'aise ou tu prends tout sur la défensive. Donc tu vois, il y a pas que être sur le terrain, même si tu gagnes des titres. Les titres, dans 10 ans, tout le monde va oublier, hein. Et la personne que tu es, on va savoir qui tu es. Donc, j'ai appris aussi qu'il faut pas gagner à n'importe quel prix.
Je m'appelle Alice Mazins, je suis ailière gauche au Paris 92. Déjà, c'est la capitaine. C'est une fille hyper enthousiaste et toujours à fond dans le hand, qui prend pas les choses à la légère, mais qui sait ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, voilà, elle apporte ça, je trouve, que cette un peu insouciance dans le hand, parce que c'est que du hand, entre guillemets. Et ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre, Mémé ?
Oui, parce que d'ailleurs, son surnom, c'est Mémé. Enfin, tout le monde l'appelle Mémé.
Oui, Méline, c'est pour faire genre, mais en vrai, elle s'appelle Mémé. Franchement, c'est vraiment sympa de l'avoir au quotidien, à l'entraînement. C'est une fille qui travaille beaucoup, donc elle est assez inspirante.
On te sent très organisée.
Oh,
non, mais en tout cas, dans ton plan de carrière.
Ah, mon plan de carrière, oui.
Mais à côté de ça, t'es quelqu'un, t'es une amuseuse. Enfin, t'aimes faire rire, t'aimes apporter de la bonne humeur. Tu te décrirais un peu comme ça, comme une showwoman en quelque sorte,
hein? Non, ça dépend. Ça dépend avec qui je suis. Si je sais que mes potes, j'aime bien les taquiner, les embêter. Avec ma famille, ça c'est la base. Mais si je te connais pas ou si j'arrive quelque part, je serai timide parce que. Okay.
Les filles me disaient que dans le vestiaire, t'avais le curseur. Tu savais être sérieuse quand il fallait et apporter la bonne humeur à côté quand...
Ben ça, tu vois, j'ai appris ça à Metz. Parce que quand tu dois gagner ou que tu sais que t'auras les retombées, t'es obligé de changer de mood. Tu vois, chanter avec les filles avant les matchs, moi, je peux pas faire ça. Parce que j'ai l'impression que c'est pas ce qui va me permettre de performer sur le terrain. Alors que si, que ça va rien changer. Et en fait, j'étais tellement matrixée, je te jure, c'est de la matrix. Et du coup, t'as l'impression que le moindre petit truc fera que ça va pas fonctionner. Et du coup, je suis totalement comme ça. Dès que on va être là, on va rigoler. Dès que tu vas me dire qu'il faut gagner, ma tête, elle va changer. Alors que je suis pas, je me décris pas comme sauvage, hein. Pas du tout, en plus. Mais ma tête, elle change. Ça me fait penser à ma tati, d'ailleurs, quand je l'appelais. Sur le terrain qu'elle était en train de jouer, sa tête, elle était énervée, comme si elle allait tuer quelqu'un, alors que pas du tout. Mais ça, c'est de la Matrix.
C'est ce qui fait de toi aussi la capitaine. Tu étais capitaine à Metz, tu es capitaine ici à Paris. T'es une leader, une meneuse, selon toi?
Non, je pense juste que je sais faire la part des choses, que j'essaie d'être exemplaire. Tu vois, je parle pas beaucoup, moi, mais j'essaie de tout le temps être irréprochable. Même si je suis nulle, par exemple, mais je continuerai à faire les efforts parce que je le dois à moi-même, parce que je me respecte, parce que je m'entraîne tous les jours. C'est pas pour rien non plus. Du coup, j'accepte pas que mes coéquipières ou que mon staff, par exemple, ne fassent pas les mêmes efforts que moi, tu vois. Je me rappelle, j'avais joué un match où le match était serré en plus. Et comme par hasard, j'ai fait 3 contre-attaques. Et les 2 premières, je rate. Mais tout bêtement, la fille, elle fait 2 gros arrêts. Je me dis, purée, je rate. On est à plus 1 ou moins 1, je sais plus. Et je récupère encore un ballon. Il faut que j'y aille, tu vois. Parce que faut que j'y aille. Et c'est là que je me suis dit, même si t'es en échec ou même si ça fonctionne pas ou même si t'es nul, continue à aller. Parce qu'on pourra rien te dire, en fait. Tu seras toujours exemplaire. Et du coup, j'ai pris l'habitude d'essayer d'être tout le temps exemplaire. Mais je peux pas venir, sinon je me lève pas. Autant rester chez moi ou autant rentrer en Guadeloupe. Je dis ça souvent. Si je suis prête à plus faire les efforts, je rentre en Guadeloupe, ouais. Ça ne me pose pas de problème.
Parlons du hand, justement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton poste, le poste de demi-centre? C'est quoi exactement?
C'est un peu la meneuse de jeu. C'est elle qui décide les temps forts, les temps faibles, si on attaque, si on n'attaque pas, si on court, si on ne court pas. Qu'est-ce qu'on fera sur l'attaque adverse pour pouvoir être le plus performant possible? C'est de connaître tout le monde, toutes les coéquipières proches et qui sont loin, donc les arrières, les pivots, d'avoir des relations avec eux. Parce que moi, je considère que si par exemple mon arrière est nul, c'est ma faute parce que c'est moi qui étais censé la mettre dans des meilleures conditions. Donc c'est un peu un poste à responsabilité où en général, dès que l'attaque est nulle, on va dire que c'est un peu ta faute. Et à la base, je voulais pas être demi-centre. À la base, j'étais à l'aile gauche. Mais Francis Malino m'a mis demi-centre parce que du coup, tout ce que je faisais, tout ce qu'on doit faire en demi-centre, je le faisais à l'aile. Donc il m'a basculé demi-centre. C'est pour ça que j'étais la seule en Guadeloupe en plus, au pôle. Et c'est à peu près ça. T'es obligé d'être ouvert à essayer de communiquer avec les autres. Et c'est ça qui m'a appris aussi à communiquer en dehors du handball. Parce qu'à la base, je parle pas. Mais vu que je suis obligée sur le terrain, ça m'a permis aussi de parler en dehors.
C'est quoi les qualités d'une bonne handballeuse pour ceux qui connaissent pas ce sport? Quand on le voit à la télé, on se rend pas compte de tout ce qu'il peut y avoir en termes d'impact physique.
Ouais, c'est dur. C'est très physique. J'ai mon voisin, je l'ai invité à un match dernièrement. Il m'a dit, mais purée, c'est super physique ton sport là. J'ai dit, mais tu crois au jeu, je sais pas à quoi là. Et donc c'est super physique.
On prend des coups.
On prend énormément de coups, donc on doit être prête physiquement. On court beaucoup parce que c'est du handball féminin, donc c'est moins, on monte moins les muscles, mais c'est plus fluide, c'est plus cardio. Faut être bon techniquement dans l'explosivité. Tu peux pas ne pas être explosif. Qui que tu sois grande, petite. En général, ils disent que les très grandes, elles sont un peu lentes, mais en vrai, elles sont puissantes, donc c'est pareil. Après, ça dépend de ton poste. Tu vois, ceux qui jouent dans les ailes, c'est plus la finition. Donc être bon techniquement, être à mon poste, c'est pas que physique, il faut être bon aussi dans la tête. Parce qu'il y a des moments chauds, tu dois être à garder du sang-froid, tu dois être intelligente.
Tactiquement, donc.
Ouais. Mais même au-delà du tactique, il faut juste être des fois intelligent. Des fois, quand t'es KO, que t'as joué 58 minutes et que tu dois jouer les deux dernières minutes et que t'es essoufflé, faut apprendre à être lucide. Donc, il faut beaucoup de compétences. Tu peux pas être juste fort ou juste intelligent ou juste courir vite.
Je voulais parler aussi de l'associatif. J'ai vu qu'à Metz, t'avais fait des actions avec ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies. Mmh. C'est important pour toi d'être engagé à côté de ton sport, d'apporter aux autres?
Ben, déjà, ça m'enlève un peu d'handball dans ma vie parce que du coup, je rencontre énormément de personnes. J'étais avec Madame Talbot, la comédienne, l'humoriste.
Claudia Tagbo.
Ouais. Donc, tu vois, je rencontre d'autres personnes parce que c'est triste, ça aurait pu arriver à ma famille. C'était les filles de Metz, les anciennes, qui sont parties, qui m'ont permis d'être marraine d'ELA. Et c'est un monsieur qui a eu la leucodystrophie qui m'a un peu expliqué. Et tu vois, je me dis, si ça arrive à, je sais pas à qui dans ma famille, ben au moins je serai au courant. Donc, d'essayer de faire passer le message. Et tu rencontres des gens, mais humainement, c'est incroyable. Tu vois, la dernière fois que j'ai été faire une intervention avec eux, j'ai pleuré comme un bébé. Parce qu'il y avait des enfants qui étaient malades, mais eux, ils souriaient et nous, on fait la gueule pour rien. Ouais. Donc,
ça fait relativiser.
Ouais, mais complètement. Et que ce soit là ou dans les centres de rééducation, j'aime trop être dans des endroits comme ça. Parce que ça te remet un peu les pieds sur terre, que t'es une petite chose, en fait, sur terre. Donc, il faut juste profiter.
Au-delà de cet aspect maladie, tu as organisé un stage cet été en Guadeloupe. Mm-hmm. Avec Euphémie Dartron, pour ceux qui la connaissent pas, c'est quand même une femme coach.
Elle m'a entraînée quand j'étais à la ZUP.
Femme coach de la ZUP, qui a fait gagner les garçons notamment.
Oui.
C'est quand même pas banal.
Non. Elle est dans le Grand Est maintenant.
C'est important pour toi de faire ce genre de stage, d'aller rendre en Guadeloupe aussi?
Ben, c'est important parce que j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui venaient ici, déjà. Donc, ils ont un peu le même parcours, entre guillemets, que nous. Que nous, à l'époque, on n'était pas informés ou on ne savait pas qu'est-ce qui était le haut niveau. Tu vois, si tu m'avais dit que le monde de haut niveau, c'était la jungle, pas sûr que mes priorités soient dans ça, quoi. Parce que il y a des choses qui ne sont pas en accord avec mes valeurs. Donc, autant leur dire la vérité, leur dire qu'est-ce qui est le haut niveau, leur dire tout ce que ça demande. Oui, tu gagnes, mais tu perds aussi. Oui, c'est beau de gagner, mais il y a des choses derrière aussi. Si tu veux faire du très haut niveau, ben t'es obligé de faire des sacrifices. C'est pas tu veux faire mais tu veux pas faire les efforts. Essaye de passer des messages parce qu'on est plusieurs, on a des parcours différents et parce que je le fais pas toute seule, j'essaie d'appeler les jumelles ou jeunes ou même les garçons d'essayer de faire passer leur message. Et pour moi, c'est juste faire passer le message. Au-delà du handball, c'est que si vous voulez faire des trucs. Et en plus, faut pas l'oublier, nous, on n'est pas d'ici, c'est pas tout le temps qu'on se retrouve dans les valeurs, donc, faut qu'ils le sachent. Comme ça, après, ils font leur choix, mais au moins, ils savent. Parce que nous, on nous a rien dit. Nous, on nous a dit, ça va être dur, ou tu vas jouer, c'est tout. On nous a rien dit.
Maintenant, en plus, dans cette expérience, tu peux rajouter le fait d'avoir été blessé, parce qu'à Paris, tes débuts ont été compliqués. Tu l'as dit, cette blessure au croisé en début de saison 2022-2023. Ouais. Comment tu as vécu tout ça, le choc, et puis ensuite
Sur le coup, je savais que c'était ça. Et en plus, c'était une période où je jouais bien, ça se passait super bien, je me sentais bien physiquement. J'ai juste eu le décès de ma grand-mère, et du coup, on pense que j'y pensais. Forcément, j'y pensais, parce qu'en plus, je suis pas rentrée en Guadeloupe. Mais je me sentais super bien. Du coup, quand je me suis fait les croisés, je me suis dit déjà que c'est ça, c'est sûr. Et j'ai tout de suite relativisé, mais genre dans la seconde. J'avais des opérations à faire des dents. J'ai foncé. Je suis rentrée chez moi en Guadeloupe. Mes parents, ils ont fait 5 mois avec moi. C'était la meilleure période de ma vie.
Ouais, tu m'as dit que tu as pu refaire un carnaval.
J'ai pu refaire un carnaval en janvier. Ça faisait 8 ans que j'avais pas fait le carnaval. En plus, je suis née dans cette période-là. Donc, tu vois, dès que j'ai entendu les tic tic tic, j'ai commencé à pleurer direct. Mais je te jure, c'était instantané. Donc, c'était dur parce que tu joues pas au handball, parce que j'ai signé à Paris, je pouvais pas aider l'équipe. bah, tu sers à rien. Donc ça, c'était dur parce qu'en plus, je sers à rien et en plus, je suis obligée de compter sur les coéquipières. Mais au-delà de ça, j'ai vécu des moments incroyables. J'ai pu fêter mes 25 ans. Ça faisait 7 ans que j'avais pas fêté mon anniversaire. Et moi, j'adore fêter mes anniversaires. Il y avait tout le monde. Mais quand je te dis tout le monde, il y avait tout le monde avec moi. Franchement, c'était vraiment la meilleure période de ma vie pour l'instant.
Ce qui est paradoxal, puisque tu étais blessée.
J'étais complètement blessée.
Tu as beaucoup de maturité par rapport à ça. J'ai lu dans une interview au Parisien que tu disais « ça m'a changé, je suis devenue moins faux-folle ».
Je suis devenue plus pro déjà. Tu vois, après on m'a dit « c'est parce que tu as vieilli mais... ». Mais tu vois, je me réveille plus 5 minutes avant l'entraînement pour aller en entraînement. J'étais capable de... J'avais entraînement à 9h, je me réveillais à 40. À 5 ans, j'étais au palais et à 9h, j'étais prête à courir comme... Mais maintenant, je peux plus faire ça. Je suis obligée de venir 30 minutes avant, de me préparer, de me conditionner pour pouvoir faire un entraînement convenable parce que sinon, je suis nulle. Tu vois, donc ça, t'es obligée de prendre en maturité parce que c'est des expériences, quoi. T'es obligée de prendre des choses parce que c'est pas complètement positif, hein. Ma période hors du handball était positive, mais dans le handball, j'ai quand même appris plein de choses, que je faisais des trucs en muscu et je pensais que c'était très bien, mais pas du tout, que fallait être plus sérieuse, que, et pourtant ça m'a pas empêché de gagner des trucs. Mais en fait, j'étais complètement dans le faux. Donc maintenant, c'est juste que je suis plus, je vais pas dire sérieuse, mais plus attentif.
Ça veut dire que c'est presque une bénédiction, cette blessure. Elle est arrivée au bon moment, en tout cas, quand on pense à Orlan qui a raté les Jeux,
oui.
Elle, pour une blessure.
C'est arrivé au bon moment, et c'est ça aussi qui m'a fait relativiser, ou en tout cas accepter très vite, c'est que, tu vois, Orlan, elle s'est fait ça un mois avant. Je me suis dit, purée, je vais être toute seule là-bas. Quand je suis arrivée en centre de rééducation à l'ADAPT, j'ai vu un monsieur qui avait les deux jambes coupées, et le monsieur, il arrivait tous les jours avec le sourire et il me faisait mort de rire. Il était incroyable, ce monsieur. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, Méline, t'as que les croisés, ça va rien changer à ta vie. Tu vas recourir, tu vas ressauter. Franchement, c'est rien du tout, rien du tout. Et à l'ADAPT, il y a plein de personnes comme ça. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui m'a changé parce que je peux plus me plaindre, quoi. T'as le droit de te plaindre quand il y a des choses qui arrivent, mais il y a bien pire que juste avoir des croisés, quoi. On nous fait croire que c'est un truc de ouf. C'est juste que pendant 7-8 mois, t'es pas sur un terrain de handball. J'ai été punie pendant un an. J'ai cru que j'allais mourir quand j'avais 10 ans. J'avais juste raté un devoir de maths et mes parents m'ont puni. Ils m'ont dit pendant un an, tu fais pas de handball. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais exécrable cette année-là, je me rappelle. J'étais horrible. Et tu vois, j'ai cru que ma vie, elle allait se terminer. Ben, c'est exactement la même chose. Sauf que, y a bien pire. C'est juste que tu passes sur un terrain. Ça change rien du tout.
Depuis un an, t'as beaucoup grandi, en fait. Dans tes vœux de 2023, t'as écrit « Merci 2022 de m'avoir appris la valeur des choses ».
Ouais.
T'as vu ça sur Insta.
Ben, c'est exactement ce que je viens de te dire parce que c'est rien du tout. Il y a bien plus important. Quand j'ai vu que mes parents sont arrivés, je me suis blessée en octobre. Ils sont arrivés 5 jours après mon opération. Et quand ils sont arrivés, ma maman, elle me massait, elle me faisait à manger, elle me faisait des soins. Je me suis dit, mais en fait, je suis un bébé. Mais parce que ça faisait 8 ans qu'elle m'avait pas eu tout ce temps. Elle m'avait pendant 2 semaines. Et c'était en 2 semaines, j'étais jamais à la maison parce que j'allais faire mes trucs en Guadeloupe. Et là, on a pu profiter, mais c'est beaucoup plus important, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que, tu vois, quand j'ai signé ici, tout le monde a fait comme si c'était un truc de ouf. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est comme tout le cinéma qu'ils font pour Mbappé qui va peut-être signer au Real. C'est rien, en fait, dans une vie. Et on l'oublie quand on est dans la machine à laver.
Je m'appelle Déborah Lasource, je suis arrière au Paris 92 et je suis martiniquaise, pas guadeloupéenne. Je pense qu'elle ramène aussi beaucoup d'expérience parce que c'est vrai qu'elle a joué pendant de nombreuses années à Metz en Ligue des Champions, donc elle a joué des compétitions internationales, elle a gagné des titres. Et c'est vrai que notre groupe il est assez jeune et je pense qu'elle nous amène un peu ça parce que on va un peu dans tous les sens parfois et c'est nous rassembler. Et voilà, je trouve qu'elle apporte ça. De toute façon, l'objectif, c'est qu'on se porte toutes vers le haut. Donc, si nous, on peut l'aider à atteindre cet objectif, tant mieux. Et Elle, j'espère qu'elle se met l'exigence nécessaire pour nous porter vers le haut aussi.
Tu penses qu'elle se la met ?
Oui. Oui, je pense que sa blessure l'a bien aidée. Je trouve que dans le travail, elle est beaucoup plus rigoureuse. Je ne dis pas qu'elle ne travaillait pas avant, mais c'est vrai qu'elle a des qualités et qu'avant, elle en jouait beaucoup. Et là, maintenant, elle s'est rendue compte qu'en travaillant plus, je pense qu'elle peut être encore plus forte. Et je pense que dans sa tête, sa mentalité, elle a un peu changé par rapport à ce truc-là. Donc ouais, je trouve qu'elle est différente.
On parle de plus en plus de l'aspect mental dans la prépa du sportif, et d'ailleurs aussi dans les sports co, ce qui était encore moins le cas, parce que dans les sports individuels, on en parlait quand même déjà. Toi, comment tu gères tout ça, même si on sent que tu es beaucoup plus apaisé maintenant ?
En plus, je suis dans une recherche pour la prépa mentale à l'INSEPT, où on cherche pourquoi les gens n'en parlent pas, entre guillemets. Comment je vois la chose ? Je vois ça comme quelque chose de très important, qu'il y en a qui n'osent pas en parler. J'ai eu des coéquipiers qui ont fait des burn-out et qui ont jamais pu reprendre un niveau qu'elles avaient avant parce que c'était trop dur. J'ai vu des gens qui voulaient mettre fin à leur vie parce que c'était trop dur. Quand après les jeux, tout le monde était dans le mal mentalement, c'était même pas physique. Il y a des gens qui se sont blessés parce que ça n'allait pas mentalement. Et en fait, je pense qu'il faut juste pas avoir honte de dire que ça va pas, quoi. Parce que toute l'exigence qu'on nous demande, surtout dans le très très haut niveau, je considère que c'est un peu nous demander 100% de nos capacités pendant X temps, alors qu'un être humain, je pense qu'il peut pas être dans un truc pendant très longtemps à 100%. J'y crois pas du tout, c'est pas possible. Déjà que physiquement, normalement, c'est pas censé être possible. Donc mentalement, imagine. Il y a rien qui est mis en place. Il y a, en tout cas, dans le handball, tout le monde parle du calendrier, par exemple. Moi, je jouais à l'époque tous les 3 jours. J'enchaînais des saisons. Donc pas, t'as une semaine entre chaque saison, alors que tu joues 9 à 10 mois avec l'équipe nationale en plus. Et oui, ça se passe bien. Tu vois, moi, j'ai pas fait de burn-out, mais s'il y en a 4 de mes coéquipiers qui en font, le ratio, il est énorme. Et tu peux pas ne pas en parler, même si c'est, t'as l'impression d'être faible, j'imagine, que t'as l'impression d'être faible quand tu parles de ça, mais c'est juste que t'es humain. C'est après les jeux que j'ai commencé à parler de ça.
Parce qu'après les jeux, il peut y avoir un sentiment que...
Ça dépend. Tu gagnes. Tu vois, nous, on a gagné, mais tout le monde était dans le mal. Mentalement, parce que tu vois, moi ça a duré 7 ans où j'étais matrixée. Mais comme j'ai réussi mon rêve, moi j'ai pas réussi à penser aux choses négatives. Mais tu vois, en plus c'est un sport collectif, on n'a pas les mêmes parcours. Il y a des gens qui se sont vraiment concentrés pendant par exemple 1 an que sur ça, ou qui n'ont pas eu les attentes ou des trucs comme ça. Il y en a qui perdent. Tu vois, les athlètes, je sais même pas comment ils font. Ou ils se préparent 4 ans, mais peut-être en 1 seconde, c'est fini. Ou ils ont pas pu prendre le départ, ou ils se blessent. Et ils sont tous dans le mal. Et il y a pas beaucoup d'accompagnement. Et des fois, quand tu dis que tu vas voir un psychologue ou un prépa mental, tout le monde te regarde comme si t'es faible. Mais en fait, c'est pas que t'es faible, c'est que t'as besoin d'aide.
Tu mets beaucoup le créole sur les réseaux sociaux. Je vois que t'as l'embout qui est tatoué sur ta gorge. C'est important pour toi, ça aussi, ça, c'est ton identité, c'est important de parler créole.
C'est totalement important parce que ma communauté, c'est quasiment que des Antillais. Ceux qui comprennent pas le créole, ils viennent me poser la question, je leur dis d'aller dans le dictionnaire. parce que c'est ma langue, parce que moi, on m'empêchait de parler créole quand j'étais jeune. On me disait qu'il fallait parler français. Et un jour, mon papy m'a dit, parle ta langue. Et c'est tout. T'as pas à parler français. Si tes parents te parlent créole, si ton frère, ta tante, je sais pas, c'est ta langue. C'est là où t'es né. Donc pour moi, c'est très important de montrer déjà que je suis guadeloupéenne, française. Y a pas de problème avec ça. Mais que des fois, les messages que j'ai envie de passer, c'est pas forcément pour les gens d'ici, mais c'est plus pour les gens de chez moi, parce que je suis complètement connectée à tout ce qui se passe là-bas. Et en plus, c'est beau, le créole.
C'est vrai. Tu es définie comme artiste sur Instagram. Je sais pas si...
Ouais, j'ai pas trouvé sportif.
Ok.
Donc J'ai pas trouvé sportif.
Ok. Mais ça veut dire que tu te sens comme une artiste,
hein? Ouais, moi, je me sens comme une artiste parce que ce qu'on fait, le handball, c'est beau. On est un peu comme les artistes. Les artistes, ils jouent de la musique, mais nous... Quand on doit faire un enclenchement, c'est de la mélodie. S'il y a un hic, ça ne va pas passer. Et en plus, je suis demi-centre. Donc, je suis forcément chef de l'orchestre. Donc, je me sens... En plus, maintenant, je peins.
En plus, donc, C'est quoi Dambri?
Dambrit. Alors, ça n'a pas de définition, tout le monde me pose la question, mais c'est mon Hakuna Matata.
Ok.
Tout le monde sait, c'est dans le Roi Lion. Et bien, au lieu de dire Hakuna Matata, moi, c'est mon Dambrit. D'ailleurs, il est tatoué sur mon genou gauche opéré. Parce que c'est... Ça, j'ai dit ça, la première fois que j'ai dit ça, j'étais certaine d'avoir une médaille olympique. Je me suis dit... Et c'est sorti d'un coup comme ça. C'est sorti d'un coup comme ça. Et du coup, c'est mon Hakuna Matata.
Ok. Dambrit. Alors, tu parlais des JO. T'as fait ton retour en bleu début octobre, après ta blessure. Ça t'a fait quoi de remettre le maillot bleu, numéro 2?
Ah ouais, en plus, j'adore. J'aime trop. Je l'ai là.
Tu nous montres ton tatouage, évidemment.
Ouais, le tatouage numéro 2. Parce que c'est mon chiffre qui me porte bonheur, c'est lui qui me suit partout dans ma vie.
T'es le 25, c'est ça?
Je suis née le 25.
Et à Paris 82.
Ici, je suis 25 parce que je suis née le 25. Ma mère et mon frère sont nés le 20, donc il y a un 2. Mon papa, le 23, il y a un 2. 98, c'est un chiffre pair. On m'a donné le 2. J'ai des dates 2 avec plein de personnes. Bref, c'est le 2, quoi. C'était trop bien parce que... Ça faisait un an, jour pour jour, que j'avais pas été sélectionnée parce que j'étais blessée. Et en plus, quand je me suis blessée, c'est là où la liste était sortie. Donc c'était un petit signal. Après, je me dis que les échéances, elles arrivent. Donc j'ai envie juste de profiter, quoi.
T'as un rapport particulier avec l'équipe de France parce que t'es arrivé à un moment où ça a bien marché, quoi.
Enfin, ouais,
il y a eu des victoires, il y a eu des médailles, il y a eu plein de choses. Qu'est-ce que ça fait justement d'être dans cette dynamique-là? Ça met la pression ou c'est stimulant?
La pression, elle est juste pour les Jeux parce que t'es champion olympique.
À domicile, en
plus. À domicile, en plus.
On parlait des Antillaises tout à l'heure en club. Il y en a aussi beaucoup en équipe de France.
Oui.
Océane Sarcien-Hugolin, Alison Pinault, Antillais Guyonnaise même, si on peut l'élargir.
Ouais.
Voilà. Est-ce que ça aide aussi en équipe de France, dans le momentum que tu vis de ta carrière, tout ça?
Moi, ça m'a aidé. C'était génial, carrément. On n'écoutait que des musiques antillaises et on parlait que créole. Donc, c'était super. Après... Comment tu te bats sur un terrain quand t'as Béa ou Orlan à côté de toi? C'est pas pareil. C'est totalement différent parce qu'en fait, tu te bats avec des gens que t'as grandi. Tu sais les sacrifices qu'elles ont fait. Donc, si tu dois aller chercher un ballon qui traîne pour Orlan, tu mettras pas la même intensité. C'est forcément humain parce que c'est le sang, quoi. Parce que si tu dois partir à la guerre, t'es certaine que tu vas y aller pour elle, tu vois. Donc, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'est pour ça que je te dis que j'ai jamais été dans une équipe où il n'y avait pas une copine à moi ou une sœur à moi ou mon sang, ça m'est jamais arrivé.
Tu dis que Orlan, c'est le sang. Vous gardez quelle relation? En équipe de France, vous êtes un peu raté ces dernières années entre ses blessures et les tiennes. Vous restez en contact régulier, elle qui est en Roumanie maintenant.
Oui, on se parle presque tout le temps avec les deux, Orlan et Laura. Je sais ce qu'elle fait, elle sait ce que je fais. On s'informe à chaque fois qu'on voit un truc sur les réseaux. Oh, franchement, sa maman, elle était chez moi il y a 2 semaines. Sa sœur était chez moi il y a 2 semaines aussi. Donc, franchement, c'est ma deuxième famille. Tous ces gens-là, on pourra pas faire comme si on n'existe pas parce que c'est mes sœurs, quoi. Ma maman, elle voulait plus faire d'enfants. Donc, j'ai été chercher ailleurs.
On parlait des Antillaises en équipe de France, au haut niveau, de manière générale. Les Antilles, c'est 800 000 habitants. Enfin, Guadeloupe-Martinique, c'est 800 000 habitants. Avec la Guyane, un peu plus d'un million. Un 1/60 de la population française. Mm-hmm. Et en équipe de France, y en a plein. Comment t'expliques ça, toi?
Je sais pas si c'est parce qu'on a des qualités physiques. Si j'ai pas envie de penser ça. Parce que ça me fait penser à l'esclavage. Mm-hmm. Et en plus, parce qu'il y a des métros qui ont aussi des qualités physiques. Les Nordiques, ils ont des qualités physiques. Elles viennent pas des Antilles.
Mais est-ce qu'il y a un mental, la notion de résilience qu'il y a dans cette
équipe? C'est ce que j'allais dire, c'est que tu vois, quand je vois une fille comme Béatrice Edwige, qui à la base, c'est pas un talent handballistique, mais c'est tellement une bosseuse, c'est la Didier Dinaro féminin, quoi, tu vois, c'est des gens qui travaillent, qui n'arrêtent pas et qui atteignent un niveau juste parce qu'elles ont travaillé, et c'est incroyable. Et il y en a plein comme ça. Nous, on prend des coups et on n'est jamais cassé. Il y a une expression créole qui dit, plié, pas jamais cassé, je sais pas quoi, et c'est vraiment ça, je pense. Et après, on est bon, parce que je sais même pas pourquoi on est bon, on est beaucoup, on est énormément.
Je voulais parler des JO, évidemment, on en a déjà un peu parlé, mais tu peux nous raconter ce souvenir de Tokyo? Bon, c'était en Covid, hein, donc c'était particulier. Ah, mais...
Franchement, le Covid, j'y ai même pas pensé. C'était incroyable. Parce que de un, c'était mon rêve. Mon deuxième rêve, c'était de voir Teddy Riner. Ah,
je l'avais noté, c'était ma question d'après, ta rencontre avec Teddy Riner.
Et quand je l'ai vu, franchement, on n'avait même pas passé les quarts. Je me suis dit, ma compète, elle est réussie. J'étais tellement contente.
Mais la photo est très drôle parce que t'es pas enfant. Un tout petit gabarit, mais t'as l'air d'un enfant.
Un enfant, mais ma tête, elle est devenue un enfant. Je te jure que quand je l'ai vu, déjà, j'étais même pas avec lui. C'est les filles qui sont venues me chercher dans ma chambre pour me dire de descendre, qui m'attendaient, parce que les filles ont dit, attends, il y a quelqu'un qui veut te voir et tout. Et il a commencé à me parler créole, comme si on se connaissait. C'était vraiment incroyable. Quand je l'ai vu, j'ai dit au fils, c'est bon, ma compétence, elle est réussie. C'est bon, j'ai réussi mes jeux, quoi. Alors que j'aurais pu le voir en Guadeloupe. Mmh. Mais de le voir là, avec ses claquettes.
Trois rivières, vieux habitants.
Ouais, c'était incroyable. Il était en claquette chaussette, il a commencé à parler créole. Je me suis dit, mais ça, c'est vraiment les Antilles. Non, c'était incroyable. Après, j'adore manger asiatique. Je mangeais tout le temps asiatique. Forcément, le handball, c'était pas... Je voulais la médaille, mais au-delà du handball, c'était vraiment les Jeux Olympiques. Parce que quand j'étais jeune, mes parents et moi, on était fanatiques, quoi. Je dormais jamais, c'est la période où je dormais jamais. Et on était là, je, tout le monde, toute la famille, on faisait des fêtes à la maison juste pour regarder les Jeux. Et c'est vraiment la seule compétition à quoi je pensais tout le temps. Je faisais une PMA qui était trop dure, mais la dernière répétition, je me disais, vas-y, peut-être que tu seras au jeu et que ce sera la dernière minute, faut que tu continues. Tu vois, tout était basé sur les jeux. Tout.
Et on arrive à rebondir après, une fois que c'est fait?
C'était chaud. Honnêtement, j'ai failli arrêter. J'ai appelé mes parents 2 heures après la médaille, j'ai dit, j'ai gagné les jeux, je rentre chez moi. ça m'a pris 2 mois à essayer de retrouver une motivation de pourquoi je vais me prendre la tête ou pourquoi j'irai faire les efforts, pourquoi je ferai encore les sacrifices, pourquoi je serai encore ici et que je rentre pas chez moi. Ça m'a pris 2 mois. Et au final, ma maman, trop mignonne, elle m'a dit, mais t'es encore jeune, tu peux continuer encore et tout. Mais en fait, continuer dans quel but? Tu vois, je peux encore jouer au handball, ça, je peux encore pendant 15 ans encore. Mais vu que moi, c'est à la base, c'est des objectifs, c'est j'ai envie de gagner ci, j'ai envie de gagner ça. Et si j'ai pas ça, pour moi, ça me sert à rien. Je peux aller jouer à la JTR, parce qu'à la base, c'est une passion. C'est pas mon métier à la base. Donc, j'ai dû prendre 2 mois pour me chercher des motivations. Et du coup, c'est là où l'aspect humain est arrivé. Et que du coup, ça m'a permis aussi de faire mon choix de quitter Metz. C'est que je me suis dit, en fait, tu vas peut-être... Là, t'as pas gagné avec Orlan. Pourquoi tu t'essaierais pas de le faire avec elle, tu vois? De faire rentrer dans la tête de tes copines qu'il faut faire des jeux parce que t'as envie de faire ça avec tes potes et tu vois. Donc maintenant, j'ai envie de gagner les jeux parce que c'est à domicile, mais parce que j'espère qu'il y aura le maximum de personnes avec moi.
C'est ça la motivation qu'il y a pour 2024. Ouais. L'ambiance, ça sera clairement pas la même.
Oui,
déjà, il y a plus de Covid et puis c'est à Paris.
Oui, déjà, ça sera forcément pas la même ambiance, ça c'est sûr. Mais franchement, c'était pas l'ambiance. Il y avait personne dans les tribunes et ça m'allait très bien. C'était vraiment pas quelque chose. Et c'est très paradoxal parce que je pense que je suis la seule à penser comme ça. Mais qu'il y ait 10 000 personnes ou 0 personnes, c'est pas ça qui me motive. C'est juste que est-ce que je vais gagner avec les gens que j'aime? Est-ce que, tu vois, c'est plutôt ça ma priorité. C'est vraiment pas l'ambiance ou autre. Parce que tu vois, la médaille, je l'ai gagnée. La première médaille que j'ai gagnée, c'est la seule médaille où j'ai dit à ma maman, celle-là, c'est pas pour toi, c'est pour personne, c'est ma médaille et je l'ai cachée et elle l'a vue une seule fois. Tu vois? Alors que l'autre, si jamais il y a, en tout cas, on fera tout pour, j'espère qu'il y aura du monde avec moi et je dis celle-là et je l'ai gagnée avec elle. Franchement, c'est celle de la patrie, quoi.
En plus, les Jeux, c'est Porte de Versailles, c'est à peu près à 200 mètres vol d'oiseau, 500 mètres vol d'oiseau d'ici.
C'est juste à côté de la maison.
Ouais,
je vois tous les.
T'es pleinement à domicile, quoi.
Je suis à domicile. C'était aussi mon souhait d'être à Paris pendant ces Jeux-là, parce qu'en plus, tu vois, depuis un an, j'ai plein de sollicitations, je découvre plein d'événements. C'est un monde, les Jeux. C'est vraiment un autre univers et tout le monde. Pense qu'à ça, donc j'ai la chance de faire plein de choses que je faisais pas avant, donc ça me fait travailler sur moi-même, faire des exercices d'interview ou de télé ou des choses comme ça. Donc c'est super sympa, quoi. C'est aussi vivre ça, c'est pas juste t'entraîner, aller jouer et rentrer chez toi. Je voulais vraiment aussi voir autour, ouvrir mon cercle. On dirait ça comme ça.
Justement, tu parlais des interviews, t'as accepté super facilement. Ça a été facile avec toi. Enfin, je te le dis, moi je planifie beaucoup de rencontres comme ça et c'est pas évident avec tout le monde. Avec toi, ça a été très facile. C'est parce que c'est RCI, parce que tu sais que tu parles à la Guadeloupe ou c'est parce que.
Déjà, il y a RCI, mais j'aime bien partager aussi. On m'a dit que je dois écrire un livre. Je vais peut-être l'écrire, hein. Mais parce que notre univers, il est incroyable, quoi, dans tous les sens du terme, dans le positif, dans le négatif, dans tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, les gens, ils voient que quand t'as gagné, mais ils voient pas peut-être ceux qui ont perdu, ou ils voient que ceux qui brillent. Mais en fait, dans une équipe, quand tu fais un sport collectif, il y a la personne qui marque 15 buts, mais la personne qui t'a permis de prendre que 15 buts, tu vois. Donc, j'essaie de partager un peu tout ce que j'ai vécu. Après, je suis encore jeune, mais j'ai déjà vécu plein de choses. J'ai déjà joué avec plein de grandes joueuses. Donc, j'ai appris à partager et à essayer que les gens s'intéressent. C'est surtout ça. J'aime pas trop parler, mais quand je commence, je m'arrête pas.
Il y a un point que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure, c'est qu'en tant que championne olympique, t'es chevalier de la Légion d'honneur.
Ouais. Hein.
C'est ouf, ça, quand même.
Mais ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Et tellement pour te dire que j'étais vraiment préoccupée qu'à mon objectif et que le reste, ça me portait peu. C'est que quand j'ai gagné, on m'a dit, oui, mais c'est trop bien, ça va changer ta vie et tout. J'ai dit, mais les gars, ma médaille, elle va rien changer du tout. C'est mon truc à moi. On me dit, mais t'es championne olympique, oui, mais ça, c'est rien du tout. Ça change rien dans la vie. On va tous mourir. Pareil, on n'aura pas un cercueil en or. Donc, c'est pour ça que je l'ai caché, ma médaille, que j'ai fait personne la voir.
Et ton insigne de chevalier de la Légion d'honneur
Elle est avec la médaille aussi.
C'est caché.
Mais je ne sais pas à quoi elle sert.
Et après le handball pro, est-ce que retourner jouer en Guadeloupe, c'est quelque chose qui pourrait te tenter
Oui, mais je pense que je vais rentrer directement. Peut-être pas forcément en Guadeloupe même, mais dans les Caraïbes. Faire du handball, forcément, parce que j'adore jouer au handball.
Mais aller rechercher un titre de championne
comme Laura Orfèvre.
Ouais.
Mais il faut que je cherche déjà quoi faire. Parce que j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire diététicienne, mais en même temps, j'ai envie de travailler à Trois-Rivières dans ma commune. Parce que mon gymnase, c'est là où j'ai grandi. Parce que ma tati travaille là-bas aussi. Mais en même temps, sous la grande terre, c'est sympa. Je sais pas encore.
T'es tiraillé.
Ouais, mais il faut que je rentre chez moi. Il faut que je rentre en Guadeloupe. Après.
Et on arrive au terme de cet entretien. J'avais une dernière question à te poser. Mm-hmm. Si tu devais te souhaiter à toi-même quelque chose, là, tout de suite, ce serait quoi?
Là, maintenant?
Ouais.
D'avoir la santé jusqu'au terme, le plus longtemps possible. La santé. Rien d'autre.
Donc, c'est pas sinon, du sportif qui vient?
Non. Sinon, je peux rien faire. Si j'ai pas la santé, je ne pourrais pas jouer. Si j'ai pas la santé, je ne pourrais pas rentrer en Guadeloupe travailler. Donc, la santé, avant tout, vraiment. D'essayer de prendre soin de moi, de ma tête, de pas choper un truc bizarre comme le Covid ou je sais pas quoi, mais vraiment la santé.
Un dernier mot pour la Guadeloupe en créole?
Dom dom blit. Non, je rigole. Mais tiens, Bered, pas je molli.
Merci, Méline.
Merci à toi.
Et puis on se voit au jeu.
Si Dieu le veut.
Exactement.